VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 8 août 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Niger, les militaires au pouvoir nomment Ali Mahaman Lamine Zein Premier ministre. Une émissaire américaine a rencontré les auteurs du coup d'État au Niger. Au Burkina Faso, une vingtaine de morts dans une attaque de djihadistes présumés. En Guinée-Bissau, nomination d'un nouveau Premier ministre après les législatives. En République centrafricaine, le projet de nouvelle constitution approuvé à une écrasante majorité lors du référendum du 30 juillet selon l'Autorité nationale des élections. L'Afrique du Sud accueille ce mois-ci à Johannesburg un sommet des BRICS. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les militaires au pouvoir au Niger ont nommé lundi un premier ministre de transition. Il s'agit de l'économiste et homme politique Ali Mahaman Lamine Zein. Il dirigera l'équipe gouvernementale qui sera constituée dans les prochains jours. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Jusqu'à sa nomination par les autorités militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la démocratie, Ali Mahaman Lamine Zein était le représentant de la Banque africaine de développement au Tchad. Au Niger, il est connu pour avoir été directeur de cabinet à la présidence de la République, puis ministre des Finances sous le régime du défunt président Mamadou Tanja. Juste avant la nomination du Premier ministre, le président du CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tiani, a reçu une délégation conjointe du Mali et du Burkina Faso venue réaffirmer la forte solidarité de ces deux pays au Niger, leur refus d'exécuter les sanctions prises contre le peuple nigérien par la CEDEAO et enfin réitérer la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Colonel Abdoulaye Meïga, porte-parole du gouvernement de transition malien.
Le président Guita et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie. Et bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. À l'endroit de la CEDEAO, nous avons deux messages. Le premier message, c'est que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Le deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CEDEAO se trompe lourdement de destinataire. Il faudrait adresser ces ultimatums aux groupes terroristes. Et ça fait 10 ans que nous attendons cela.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Signalons par ailleurs que les dirigeants de la CEDEAO vont à nouveau se réunir jeudi à Abuja, au Nigeria, pour évoquer la situation au Niger, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Selon une source proche de la CEDEAO, une intervention n'est pas envisagée à ce stade et la voie du dialogue semble donc toujours sur la table. Et puis le premier ministre nigérien déchu, Ahmadou Mahamadou, a dit lundi à TV5 Monde que la junte a demandé à la délégation de la CEDEAO de revenir d'ici mardi au Niger. Cette délégation, arrivée jeudi à Niamey, était repartie quelques heures plus tard, sans être parvenue au moindre résultat. Une émissaire américaine, la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, a eu des discussions difficiles à Niamey avec les militaires auteurs du coup d'État au Niger, sans parvenir à aucune avancée. Elle a déclaré lundi avoir rencontré à Niamey les auteurs du coup d'État Nani Talani.
Ces discussions ont été extrêmement franches et par moments assez difficiles, a-t-elle dit à la presse par téléphone. Elle a indiqué avoir rencontré le général de brigade Moussa Salahou Barmou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables, mais n'avoir pas pu s'entretenir ni avec le chef des militaires au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, ni avec le président renversé, Mohamed Bazoum. Madame Nuland a dit avoir proposé de nombreuses options pour mettre fin au coup d'État, ainsi que les bons offices des États-Unis s'il y avait un désir de la part des responsables de revenir à l'ordre constitutionnel, tout en ajoutant « Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit. J'espère qu'ils garderont une porte ouverte à la diplomatie. Nous leur avons fait cette proposition, nous verrons bien », a-t-elle poursuivi. La responsable américaine a par ailleurs précisé que le général Barmou était bien au fait de la coopération existant entre le Niger et les États-Unis en raison de son engagement passé dans les forces spéciales. Les auteurs du coup d'État comprennent très bien les risques que fait courir à leur souveraineté une invitation de Wagner, a déclaré Mme Nuland, en référence au groupe paramilitaire russe Wagner, présent notamment au Mali voisin, présence que dément Bamako, qui parle d'instructeurs militaires russes.
La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise provoquée par le coup d'État au Niger, a affirmé lundi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans une interview à RFI. Il est certain que la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation. C'est la démarche de la CEDEAO, c'est notre démarche et nous soutenons les efforts de la CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel, a déclaré M. Blinken. Au Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont été tuées dans une attaque djihadiste présumée, ont indiqué hier des sources sécuritaires et locales. Le point avec John Linden.
L'attaque de dimanche dans la région du centre-est, près de la frontière togolaise, a tué une vingtaine de personnes, essentiellement des commerçants, a indiqué une source sécuritaire, tandis qu'un commerçant a avancé un bilan de 25 morts et une douzaine de blessés. Jeudi, une précédente attaque avait visé plusieurs dizaines de véhicules transportant des marchandises, selon la même source sécuritaire. Plus de 16 000 civils, militaires et policiers ont péri dans des attaques djihadistes selon un décompte d'ONG, dont plus de 5 000 depuis le début de l'année. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées internes, ce qui en fait l'une des pires crises de déplacement interne en Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022 en évinçant le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui, en janvier de la même année, avait renversé le dernier président élu du pays, Roch-Marc Christian Kabore.
Le président de Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Embalo, a nommé lundi au poste de premier ministre Geraldo Martins, un responsable de la coalition qui a remporté les récentes législatives autour du parti historique PIGC, indique un décret publié par la présidence sur les réseaux sociaux. Cette coalition a ainsi imposé la cohabitation au président Embalo. En République centrafricaine, l'autorité nationale des élections a publié hier soir les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 30 juillet. Selon cette institution, le projet de nouvelle constitution a été adopté avec 95,27% des voix, des chiffres qui doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Les résultats publiés par l'autorité nationale des élections n'ont pas surpris car tout le monde s'attendait à une victoire écrasante du oui. Dans son rapport préliminaire, l'autorité nationale des élections a mentionné qu'elle n'avait pas pu obtenir tous les résultats en raison d'un déficit logistique. Selon ces données, sur 1 858 236 électeurs inscrits, 1 064 729 ont voté oui, soit un pourcentage de 95,27%. Et 52 824 électeurs ont choisi non, soit 4,27% de suffrages exprimés. Sur le taux de participation, l'autorité nationale des élections a indiqué que 61,10% des électeurs se sont rendus aux urnes. Concernant le budget du scrutin, elle a précisé que sur les 3 716 millions de francs CFA demandés, seuls 2 625 millions ont été mobilisés. Un gap de plus d'un milliard de francs CFA reste à comblé par le gouvernement. À compter de ce 7 août, date de publication de ces résultats provisoires, la Cour constitutionnelle a 15 jours pour rendre public les résultats définitifs. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le sommet des BRICS à Johannesburg ce mois-ci va chercher à renforcer les liens commerciaux du groupe de cinq nations avec l'Afrique, a déclaré le pays hôte Michel Joseph.
Les dirigeants du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud et le chef de la diplomatie russe se réunissent du 22 au 24 août sur le thème « Les BRICS et l'Afrique » selon Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Les discussions vont aussi porter sur la stimulation des investissements sur le continent, a déclaré Mme Pandor, ajoutant que des représentants d'autres pays africains seront présents. Le président chinois Xi Jinping, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le premier ministre indien Narendra Modi ont tous confirmé leur présence à Johannesburg. La Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le président russe Vladimir Poutine va participer en ligne. Le président français Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il souhaitait participer, mais lorsqu'on a demandé à Madame Pandor, si le dirigeant français serait présent, elle a répondu « C'est assez amusant, aucune invitation n'a été émise à cet égard. »
La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué les bonnes perspectives de l'économie de son pays avec une projection de taux de croissance de plus de 7% par an pour la période 2023-2025. En 2022, le pays a enregistré un taux de croissance de 6,7% en dépit d'un contexte mondial difficile marqué par les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, a fait savoir le président ivoirien dans un discours à la télévision nationale dimanche soir. En Afrique du Sud, la ville portuaire et touristique du Cap est paralysée depuis plusieurs jours par une grève des taxis collectifs qui a pris une tournure violente avec la mort de 3 personnes, a annoncé la police lundi. Le Conseil national sud-africain des taxis avait appelé au débrayage la semaine dernière pour dénoncer un nouveau règlement qui donne à la municipalité du Cap le pouvoir de saisir les véhicules pour diverses infractions. En Tunisie, environ 200 boulangers-pâtissiers ont participé lundi à un premier sit-in d'une série de mobilisations pour dénoncer une décision de l'État les privant de farine subventionnée. Le président Kais Saied a récemment dénoncé une spéculation sur la farine subventionnée et son ministère du Commerce a interdit le 1er août à 1500 boulangeries d'en acheter.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrique n'a plus qu'un seul représentant en huitième de finale du mondial féminin. Le Nigeria s'est incliné hier devant l'Angleterre.
Les Super Falcons ont poussé les Anglaises, championnes d'Europe en titre, jusque dans leur dernier retranchement. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'Angleterre s'est finalement imposée au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Les Super Falcons sortent de la compétition sans atteindre les quarts de finale comme au Mondial 1999. Leur meilleure performance, l'Angleterre disputera son quart samedi contre la Colombie ou la Jamaïque. De son côté, l'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifiée en battant le Danemark 2-0. Avant le Nigeria, l'Afrique du Sud a été battue 2-0 par les Pays-Bas. L'Afrique a le regard tourné vers le choc de ce mardi entre la France et le Maroc.
Ce huitième de finale, France-Maroc, est riche en symboles.
Que de souvenirs communs entre Marocains et Français, nous dit Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca, au Maroc.
Les Marocains se retrouvent donc en huitième de finale de la compétition, avec pour enjeu maintenant et pour objectif de battre l'équipe de France. Une rencontre qui aura une dimension symbolique à géométrie variable, puisque 6 joueuses de l'équipe du Maroc sont des binationales. Du côté de l'équipe de France, Sakina Karchaoui, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, est née de parents marocains. Il y a Reynald Pedros qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, qui connaît évidemment de très nombreuses joueuses, qu'il a eu le privilège de coacher, et notamment en Champions League. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr Hervé Renard, qui a des attaches sportives et sentimentales, puisqu'il a été le sélectionneur du Maroc entre 2016 et 2019.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, pour faire face à une éventuelle intervention militaire de la force de la CDAO en vue de rétablir l'ordre constitutionnel, les putschistes ont lancé un appel à la mobilisation des populations. Les citoyens se constituent en bouclier à travers des comités de veille patriotique. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Dans leur logique de poursuivre la transition militaire, les autorités de fait du Niger ont indiqué ne pas céder aux menaces et autres intimidations d'où qu'elles viennent. À l'expiration de l'ultimatum à elles donné par la CEDEAO pour revenir à un ordre constitutionnel normal, elles ont lancé un appel aux citoyens à la mobilisation dans la perspective d'une intervention militaire. Colonel-major Amadou Abdraman.
Les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays, pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie.
Un appel visiblement entendu au sein de la population, les jeunes notamment.
Je crois que c'est un devoir pour tous les jeunes de répondre à l'appel du président. C'est un devoir pour tout citoyen nigérien de soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parce que l'objectif, en réalité, c'est de résoudre le problème qui plane sur le territoire national, qui est l'insécurité.
Les militaires, ils ont dit dans leur appel qu'eux, ils sont prêts à défendre la patrie. Nous sommes prêts. Parce qu'il n'est plus question, j'ai eu à le dire, d'appartenance politique. C'est le Niger qu'il faut mettre devant. Nous allons défendre la patrie, même si nous allons mourir pour cette patrie. On est déterminé, on est engagé, on est prêt à le faire.
Je suis de la région de Tillabéri. Depuis 2016, je n'ai pas mis pied au village compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est beaucoup dégradée depuis une décennie. Et je crois que chaque Nigérien qui se soucie de qui est patriote, qui aime le Niger, devrait participer. C'est une obligation pour chaque Nigérien.
Déjà, avant l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des organisations de la société civile ont mis sur pied des comités dits de veille patriotique au niveau de certains ronds-points de la capitale Niamey. Michael Zodi fait partie des initiateurs.
Nous n'avons pas perdu la CEDEAO, ils le savent. Nos forces de défense et de sécurité n'ont pas perdu la CEDEAO. Et nous avons constaté que c'est la France qui est derrière pour pouvoir nous agresser. Et heureusement, nos autorités militaires ont pris la décision de demander à la France de partir. Les troupes françaises qui sont ici doivent partir. C'est à nous, peuple, de matérialiser ça. Ça veut dire que la mobilisation continue au niveau des ramp-points, surtout ramp-points escadrilles où se trouve la base militaire. Nous devrons nous mobiliser. Et c'est ça les brigades de 20 citoyens que nous avons mis en place. En matière de guerre, chaque citoyen est un soldat. Et nous tous, nous sommes des soldats.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'ultimatum de la CEDEAO aux putschistes nigériens a donc expiré. Les délégations sillonnent les pays de la sous-région en attendant un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu pour jeudi prochain à Abuja au Nigeria. Dans cette affaire, les autorités maliennes affichent sans jambage une position de soutien au peuple frère du Niger, nous dit notre correspondant sur place, Mohamed Danioko.
Les regards tout au long du week-end dernier étaient tournés vers le Niger. Au moment où les militaires au pouvoir multipliaient le communiqué, les chefs d'état-major de la CEDEAO terminaient une réunion de 3 jours. Amadou Kouyaté, observateur malien, estime qu'il faut toujours privilégier le dialogue compte tenu de la situation sécuritaire au Sahel.
Je pense que ce qui prévaut dans la sous-région, précisément l'ultimatum donné par la CEDEAO, je pense que seul le dialogue est un issue favorable pour amener la paix dans la sous-région. Et ce que le Sahel vit déjà, il y a plus de 2 décennies, moi je précise très bien, il y a plus de 2 décennies, ce que le Sahel vit, ce cadre de terrorisme et de djihadisme. Et je pense que c'est l'union sacrée de ces États qui peut vous amener ça.
Les autorités de la transition malienne et celles du Burkina avaient menacé de combattre aux côtés des militaires nigériens en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. Une posture qui, selon Nde Ombotimbe, journaliste malien, s'explique par les enjeux sécuritaires communs aux trois pays.
Je crois que le Mali et le Burkina, ils sont dans leur logique, parce que le Niger fait directement frontière avec le Mali et le Burkina. Donc je crois que c'est de bonnes guerres. Donc c'est quand le Niger brûle, le Mali n'échappera pas, le Burkina n'échappera pas. Je crois que c'est une cause noble pour le Mali et le Burkina de s'associer, combattre aux douleurs du Niger. Parce que c'est les trois pays sont pratiquement c'est les frontières. Donc finalement, aucun pays ne peut échapper. Même par rapport aux terroristes, là, le Burkina, le Niger, le Mali sont plus attaqués. Donc vraiment, moi, je crois que c'est de bonnes guerres.
Si l'option militaire semble en attente pour Amadi Diko, citoyen malien, cela est une bonne chose car pour lui, le dialogue est toujours possible en vue de trouver une issue favorable à cette crise.
L'intervention militaire, les conséquences sont très néfastes pour l'Afrique, pour Sahel. Et donc là, je crois qu'il faut passer par des négociations. Jusqu'à présent, les portes de négociations ne sont pas totalement fermées parce que même si on mène une guerre, bon, ça va aboutir à des négociations encore. Donc au lieu d'arriver là-bas, il faut commencer encore par là.
Lundi, une délégation de Haut-Gradé Malien et Burkinabé se sont rendues à Niamey après avoir reçu la visite de Salifou Moudi, numéro 2 de la junte nigérienne. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Le coup d'État au Niger reste un dilemme pour les chefs d'État de la région ouest-africaine dont la nouvelle direction tient à enraciner un nouvel ordre démocratique. Au Nigeria, les avis sont partagés sur une éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le Nigérien Bolamé Tinubu, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, depuis le 9 juillet, fait face à un premier test qui l'a placé dans une situation délicate. Il a présidé un sommet d'urgence de la CDAO à Abuja qui s'est terminé par un certain nombre de sanctions et un ultimatum à la junte, lui donnant une semaine pour rétablir Mohamed Bazoum, le président élu du Niger. Dans le pays, on joue à la prudence. Sadiq Garba Jehu est colonel de l'armée de l'air à la retraite.
Il porte deux chapeaux. Premièrement, il est le chef actuel de CDAO. Il a les responsabilités là. Mais il est aussi le président du Nigeria. Malgré le fait que le CDAO a pris une décision, chaque pays va regarder à plus près. Dans cette décision de CDAO, c'est quoi qui est bon pour moi? C'est quoi qui n'est pas bon pour moi?
Au Nigeria, la détermination de Tinubu et de ses pairs de la sous-région pour trouver une solution à la situation au Niger est perçue comme une bonne intention, mais on s'inquiète de savoir si le bloc régional peut vraiment mettre sa menace à exécution dans le contexte actuel.
Je dirais que c'est triste parce que normalement, le président de la CDAO, qui est le président Bola Ahmed Tinubu, est censé gérer la situation calmement, y aller avec douceur et essayer de chercher à savoir quelle est la raison pour laquelle les militaires ont pris le pouvoir au Niger.
Je pense que les dirigeants de la CDAO sont trop pressés. Ils devraient prendre leur temps et penser aux conséquences de leur action. Vous savez, parce que ce coup d'État a une raison.
Réunis à Abuja pour planifier l'intervention militaire au Niger, si la junte refusait de céder le pouvoir, les chefs d'état-major de la CDAO ont reconnu le fait que le coup d'État au Niger a mis en évidence la fragilité de la région et la nécessité d'un cadre de sécurité solide et proactif. Le major général Christopher Moussa est le chef de défense de l'armée nigériane.
Nous avons reconnu la nécessité d'une approche globale qui concerne la politique sécuritaire et les dimensions diplomatiques. Il est impératif que nous traduisions nos délibérations en actions concrètes qui traitent efficacement la crise et empêchent que ça se répète à l'avenir. La CDAO ne sera pas utilisée pour des coups d'État. La démocratie est ce que nous défendons et la démocratie est ce que nous soutiendrons.
Le Sénat nigérian souhaite pour le moment une résolution pacifique de la crise. Dans le nord du Nigeria, région natale de 7 puissants sénateurs, l'expiration de l'ultimatum de la CDAO suscite une angoisse perceptible. Tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine étape de la CDAO. Les chefs d'État de la région promettent d'explorer toutes les voies et qu'une intervention militaire ne serait qu'un dernier recours. Le président nigérien Bolamé Tinubu et président de la CEDEAO vient de convoquer un autre sommet extraordinaire des chefs d'État pour le 10 août. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La 15e édition de l'Assemblée générale des Nations unies des collégiens s'est tenue ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Maryland. Des jeunes venus du monde entier se sont donné rendez-vous à Hood College pour des activités comme la formation en diplomatie, en STEM et en robotique. Un reportage de Blanche Sanou.
Samuela de la RDC, Sophie de l'Allemagne, Raela de Trinidad et Marcela de la Colombie sont quatre collégiennes qui ont passé leurs vacances scolaires dans le programme d'éducation et d'échange culturel soutenu par le Centre de l'UNESCO pour la paix. Le centre organise cette expérience depuis 15 ans avec la participation de plus de 5000 jeunes à travers le monde. Guy Joken est le directeur du Centre de l'UNESCO pour la paix.
Il y a des jeunes qui arrivent ici. Certains vont faire une simulation des Nations Unies pour apprendre comment les décisions sont prises au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'UNESCO et tout ça. Et de l'autre part, il y a d'autres qui vont vraiment l'important de la science.
La journée commence pour Samuela. Après son petit déjeuner, elle rejoint la salle de conférence pour défendre ses idées et opinions avec ses pairs des autres pays.
Que la religion soit impartiale.
Samuela Biello représente l'Éthiopie dans cet exercice.
J'apprends comment les décisions se prennent, comment négocier, comment m'exprimer en public et surtout comment ça se passe au sein des grandes organisations comme l'UNESCO, l'Union africaine et l'Union européenne.
Âgés de 14 à 20 ans, certains participants comme Raela Koumine ont décidé de se familiariser avec les technologies de pointe comme les STEM.
He makes prosthetic, robotic, prosthetic.
Il fabrique des mains robotiques sous forme de prothèses pour les enfants qui n'en ont pas.
And he engineers.
Donc il les crée. Le formateur nous a montré comment reproduire la même chose, comment utiliser les câbles et faire le codage pour pouvoir fabriquer nos propres mains.
Sophie Thomas profite de son séjour pour explorer de nouvelles idées dans le domaine de la création, du changement climatique et des énergies renouvelables.
Le projet de mon groupe porte sur la mode et l'accessibilité économique. Nous avons bossé sur un projet de costume à moindre coût pour un entretien d'embauche pour les étudiants à faible revenu. Nous voulons ouvrir un service de location de costumes avec tout type de vêtements qui peut être loué par un étudiant pour une courte durée pour des interviews.
Marcela Outamante dit que cette plateforme va au-delà de la rencontre. Elle renforce pour elle le lien entre les participants de différents horizons culturels avec une diversité de langues.
Je pense que c'est vraiment merveilleux de se réunir et de donner à tout le monde la même opportunité de pouvoir se rencontrer, impacter et changer la vie des gens, quelle que soit leur langue ou leur pays d'origine.
Samuela, Sophie, Raela et Marcela ont décidé de s'engager dans la mise en place d'un monde unique où la coopération internationale et la paix seront des atouts primordiaux.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, ex-Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.